Chapitre 22. Un message laconique de Gecko cueillit Charcot au réveil. Deux malheureuses lignes qui indiquaient qu'il réintégrait ses fonctions dès le lendemain matin. L'enquête menée par l'IGPN était classée. Aucune mention concernant la mort de Fermont ou l'agression d'Audra ne serait faite dans ses états de service. Frank se sentit seulement à demi soulagé. Peut-être que, au fond, il aurait dû payer pour ce qui était arrivé à sa collègue. Il était son supérieur. Or, un supérieur devait veiller à la sécurité de son équipe. L'absence de notification au dossier signifiait purement et simplement que, à leurs yeux, Audra ne valait pas grand-chose. En réalité, le seul point positif, c'était qu'il allait enfin pouvoir agir dans les règles, retrouver une partie de son groupe et disposer de ressources. Pourtant, il comptait encore optimiser un peu ce temps passé loin du bureau. Il se gara à Vanves juste après midi. Il avait enfilé son jean de rechange et s'était débarrassé de l'autre dans une poubelle, après avoir renouvelé ses pansements. La plaie commençait à cicatriser et ressemblait déjà à une blessure bête qu'on pouvait se faire en heurtant violemment le cadre d'un lit. C'est ce qu'il expliquerait à Lucie, en tout cas. Évidemment, il n'avait pas fermé l'œil, ou si peu. Le visage de Momie et les derniers mots de Nebraza l'avaient hanté toute la nuit. « Je n'ai pas failli mourir, j'ai été mort. » Charcot ignorait ce qu'il avait voulu dire par là, mais il avait ressenti, comme rarement dans sa vie, une forme d'angoisse au fond du ventre, pas rassurée dans l'obscurité de sa chambre. L'adresse fournie par l'abbé le mena devant un immeuble de briques jaunes, dans une rue tranquille, à l'écart du centre-ville. La porte du hall n'était pas verrouillée. Le flic aurait pu différer sa visite pour respecter le cadre d'une procédure stricte, mais il était sur sa lancée. Il repéra donc la boîte aux lettres portant l'étiquette 31B et l'ouvrit sans forcer, une tirette qu'on pouvait basculer avec une simple carte de crédit. Trois enveloppes attendaient à l'intérieur. Les deux premières n'étaient pas cachetées et contenaient des rappels de loyer à régler, avec dessus le numéro de portable de la propriétaire. L'autre portait le code ROC 23044 et le cachet daté du 9 octobre. Il décolla le rabat avec délicatesse et en tira une feuille. L'écriture était tremblotante, penchée, le papier blanc et légèrement chiffonné. « Vous ne venez plus me voir. Je présume que vous avez déniché la faille et que vous n'en êtes pas sorti indemne. » Peut-être que les démons ont été trop forts qu'ils vous ont empêché de revenir parmi nous. Je vous avais averti de leur puissance. Néanmoins, si vous êtes encore de ce côté-ci et que vous lisez ces mots, ne les combattez pas seuls. Rejoignez-moi. Ensemble, nous serons plus forts contre eux. Que Dieu vous apporte son aide. La faille. Instantanément, Charcot revit le diorama où Emma était suspendue au-dessus des diables dans la grotte. S'agissait-il d'un lieu, d'une illusion jaillie de l'esprit d'un fou, d'une de ces expériences mystiques qu'on vivait en ingurgitant des substances illicites genre LSD? Dubitatif, Frank photographia le courrier et remit tout en place dans la boîte aux lettres, ni vu ni connu. Pour accéder aux étages, il appuya ensuite sur les boutons de l'interphone au hasard, jusqu'à entendre le grésillement espéré. Au troisième, il tourna la poignée de porte de l'appartement, a priori loué par Emma. Fermé, évidemment. Vu la médiocrité de l'huisserie, ça n'avait pas l'air d'être une serrure à trois points. Mais il ne se voyait quand même pas défoncer le chambranle. Il préféra appeler la propriétaire. Une heure plus tard, elle débarquait, surtout parce qu'elle s'inquiétait pour ses finances. Sa locataire n'avait pas réglé ses derniers loyers. Charcot lui fit comprendre qu'il était à sa recherche et en profita pour glisser quelques questions qui ne lui apprirent au final que des banalités. Il s'agissait d'une jeune femme discrète qui habitait le T2 depuis mai. Lorsqu'il demanda à entrer seul, son interlocutrice lui confia sans protester un double de la clé à remettre dans la boîte aux lettres quand il aurait terminé. Et comme elle insistait pour ses histoires d'impayés, il lui signifia qu'on la recontacterait dans les prochains jours pour venir déposer au bastion. Dès qu'il eut le champ libre, il enfila des gants et pénétra dans l'appartement. Un coin salon-cuisine propre, fonctionnel, où rien ne traînait. Doty n'avait, semble-t-il, pas investi les lieux, par ailleurs déjà meublés. Pas de souvenirs personnels, pas de décoration. Il ouvrit les placards, les inspecta à la va-vite, puis s'orienta vers la salle de bain, où il dénicha une trousse de toilette qui renfermait en gros le strict nécessaire pour quelques nuits. Au bout du couloir, il bifurqua dans l'unique chambre. Un bureau avait été installé dans un angle, à droite du lit. Une table, une chaise, un ordinateur portable. Là, un large panneau en liège débordait de photos, et le sol était jonché de piles de journaux et de magazines. Il y en avait plusieurs centaines. L'endroit, à l'évidence, où Doty avait mené une partie de ses recherches. Frank essaya d'abord d'accéder au contenu de l'ordinateur, mais un mot de passe l'en empêcha. Il fouilla dans les tiroirs. Les enveloppes en provenance de l'abbaye étaient là. Il s'empara de la première et constata avec aigreur qu'elle était vide, comme la deuxième. Ses yeux se portèrent alors sur les cendres au fond de la corbeille. Il y plongea les doigts. Du papier brûlé. Doty s'était débarrassé des lettres. Et merde ! Par acquis de conscience, il vérifia quand même toutes les enveloppes. La dernière, qui d'après le cachet de la poste datait de la toute fin juillet, contenait encore une feuille. Peut-être la chance lui souriait-elle finalement. Il la déplia. Dessus, il n'y avait qu'un mot, écrit en grand et en travers, pas Zouzou. Charcot n'y comprenait rien. Nebraza avait pris la peine d'envoyer un courrier pour simplement noter ça. Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça signifiait ? Il observa les photos sur le mur. De vieux clichés en noir et blanc montraient des gros plans de cadavres sans l'ombre d'un doute sur un champ de bataille. Des soldats empêtrés dans la boue, pétrifiés dans les positions les plus étranges. L'un n'avait qu'un œil ouvert pendant que sa bouche béante tombait sur le côté gauche. Un autre se tenait debout contre la paroi d'une tranchée, une main appuyée sur un sac, la seconde serrant son fusil, un trou au milieu du front. Une légende indiquait la mort dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Ensuite, une série très différente. Des jeunes Africains, enchevêtrés dans des barbelés tels des poupées de chiffon, le dos criblé de balles. Des silhouettes d'ébène sèches et luisantes de sang. Encore des visages, toujours la même signature d'effroi, et ces corps comme en arrêt sur image. Des yeux exorbités, pleins de terreur, des bouches hurlantes, des doigts crispés sur le métal acéré qui labourait les chairs. La mort au travail lors du génocide rwandais, 1994. Il y avait d'autres massacres, d'autres catastrophes, de toutes les époques, en tous lieux, y compris dans les immenses terrains vagues brésiliens où s'alignaient par milliers les victimes du Covid. Et toujours la mort, avec ce M majuscule. La mort personnifiée. Doty avait zoomé sur le regard de certaines victimes, puis les avait imprimées et disposées les uns à côté des autres. On distinguait le même éclat dans les pupilles inertes, comme si elles avaient toutes vu la même chose en quittant ce monde. Frank imagina alors une imposante silhouette noire, enroulée dans une cape, si grande qu'elle atteignait les nuages. Une figure responsable des guerres, des épidémies, balayant les vies comme les blés à généreux coups de faucille. Il pensa aux 10 plaies d'Égypte, au déluge, à l'arche de Noé. Tout cela ne pouvait être qu'un amas de conneries, un délire mystique. Pourtant, ces visages effrayés, ces existences fauchées par milliers, étaient bien réels. Sur l'un des clichés épinglés à l'écart, il reconnut Nathalie Charlier, la femme qui s'était rompue la nuque au bas de son escalier. Le corps, couché sur une table en acier, avait été photographié sous tous les angles. Ainsi, Emma Doty ne s'était pas débarrassée de sa carte mémoire lors de son interception à l'IML. Elle avait réussi à la planquer sur elle. Mais comment la séroplasticienne avait-elle pu savoir que Nathalie Charlier avait été, visiblement, frappée par la même vision de terreur que les Tutsis ou les soldats des tranchées juste avant de donner son dernier souffle? En quête de réponse, Frank s'intéressa aux articles de journaux posés sur le bureau. L'un d'entre eux était précisément en lien avec Nathalie Charlier. éboulement mortel à proximité de Fontaine-le-Puy. Le minivan, heurté par les rochers qui avaient dévalé la pente sur plus de 30 mètres en dessouchant des arbres au passage, aurait pu terminer sa course bien plus bas dans le ravin si une rangée de gros épicéas n'avait pas fait barrage. Le parapet, littéralement déchiré, a pu témoigner de la violence du choc. Quand les secours sont arrivés sur place, ils n'avaient que peu d'espoir de retrouver des personnes en vie. Grégoire Joly, le chef des pompiers qui est intervenu ce jour-là, 23 ans d'expérience, l'a lui-même admis. C'était impossible qu'il y ait des survivants à un tel accident. Il a fallu descendre harnaché tant le terrain était compliqué. Il y avait du verre et des morceaux de métal partout. J'ai été le premier à entrer dans le van par une ouverture sur le toit. La scène la plus éprouvante de toute ma vie. Grégoire Joly explique cela avec une vive émotion dans la voix. Les corps, le silence, puis ce moment incroyable. Je m'apprête à ressortir quand j'ai entendu un appel. Au départ, j'ai cru qu'il s'agissait d'une collègue, mais ça venait des sièges du fond. Je suis retourné, et c'est là que j'ai vu cette femme. Elle était coincée sous la banquette, comprimée entre les sièges. N'est-ce pas, c'était à peine suffisant pour y passer une main. C'était incroyable. On a apporté le matériel de décarcération. On a mis plus de 2 heures à l'extraire de là à cause du terrain. Elle n'avait que des blessures superficielles. Je n'avais jamais vu quelqu'un avoir une telle chance dans toute ma carrière. Parce que vraiment, il aurait suffi qu'un siège, que la banquette ou que la paroi latérale ait été écrasée 1 centimètre de plus pour la tuer. C'était un véritable miracle. Je n'ai pas d'autre mot. Franck imaginait sans mal l'horreur face à laquelle les secours s'étaient trouvés, et en même temps la joie mesurée d'avoir débusqué une survivante. Il s'intéressa aux autres articles de la pile. Eure-et-Loir, une bonne étoile lui évite le pire. Un train avait percuté une voiture bloquée sur la voie à plus de 70 km/h. Le véhicule avait été éjecté sur le côté et avait heurté un pylône. Pourtant le conducteur n'avait pas eu une égratignure. Il en était sorti hagard et avait marché sans but sur 100 mètres avant de se rendre compte de la situation. Lyon, tragique incendie d'un immeuble. 18 victimes, l'unique rescapé témoigne. Charcot enchaîna ainsi les lectures. Des drames terribles, et chaque fois l'histoire improbable d'une personne passée à 2 doigts de la mort. Des récits à glacer le sang que la séroplasticienne avait sans doute cherché partout dans les journaux et les magazines couvrant le sol. Dans chacun, il était question d'individus qui avaient réchappé, d'une façon ou d'une autre, à un sombre destin. Perturbé par ces récits, le flic porta une plus grande attention au dernier papier, parce que Emma Doty y avait entouré un nom, Lavoisier, et avait noté à côté une adresse à Créteil. L'article datait d'il y a 5 ans. Alexis Lavoisier, 20 ans à l'époque, était assis dans une cabine téléphérique en Italie quand l'un des câbles s'était rompu sur le parcours. Une chute de plus de 45 mètres. Pourtant, on avait découvert le jeune homme en vie avec un simple poignet cassé au milieu de 11 corps qui avaient été pulvérisés. L'encart titrait « Le miraculé du lac majeur ». Une putain de fichue bonne étoile, songea Charcot. Selon toute vraisemblance, Doty avait réussi à mettre la main sur l'adresse de cet Alexis Lavoisier et était probablement allé le voir. De la même manière qu'elle avait essayé de retrouver Nathalie Charlier. Et peut-être tous les autres. Le flic prit des dizaines de photos de la pièce, du panneau en liège sur lequel les clichés se superposaient, des articles, et quitta les lieux, laissant tout en ordre. Il connaissait déjà sa prochaine destination, Créteil. Avant de reprendre la route, cependant, il appela Lucie et lui résuma la situation. Puis sollicita son aide. « Il y a un ordinateur portable à récupérer au plus vite, ainsi qu'un courrier dans la boîte aux lettres, et un autre dans le tiroir du bureau. »«
Bon Dieu, Franck, et comment je justifie tout ça auprès de Mortier ?»«
Tu ne justifies rien auprès de Mortier. J'ai reçu un message de Géco. Demain matin, je réintègre. » Je pense que Mortier a aussi été averti et qu'il est bien content que ça se termine. Bref, j'ai vraiment besoin que tu ailles chercher cet ordinateur et ces lettres illico. Je signerai le PV plus tard, c'est pas un problème. Ensuite, tu contactes Julien Sidroux du service informatique sur le numéro perso que je vais t'envoyer juste après. C'est un bon. Le mec n'a pas de vie et il va se jeter sur l'ordinateur comme un morpion, même un dimanche.
Tu m'emmerdes, Franck. Tu peux pas attendre demain, bon sang?
Non. Je ne peux pas. Et tant que je t'emmerde, c'est que je suis en vie.